Depuis toujours, j'accumule les traces pour lutter contre mon angoisse de la disparition.
Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Grégoire Denis. Veuillez rappeler plus tard.
C'est sûrement pour ça qu'un petit matin d'octobre, mon ami Béné m'a demandé de faire quelque chose avec ou autour de son fils Grégoire.
Mais j'ai pas envie d'en parler non plus, ça va être compliqué pour toi.
Car qui était-il vraiment ?
Il était double en réalité.
Timide.
Désespéré.
Et de quoi est-il mort ?
C'est un garçon qui avait une vraie fragilité.
Deux questions obsédantes, auxquelles j'en ajoute une troisième. Est-ce qu'on peut s'en sortir, un jour ?
On se voit pourquoi ?
Alors, on se voit pourquoi ?
Même pas mort, une série des pieds sur terre de Sophie Simoneau et Sylvain Richard à retrouver sur le site de France Culture et l'appli Radio France dès le 10 octobre.
Les pieds sur terre, Karine Leloette.
Ça a commencé début septembre, à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. À ce moment-là, plusieurs dizaines de détenus refusent net leur plateau repas et entament ainsi une grève de la faim. Ils protestent contre leurs conditions de détention dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, les QLCO. Ce sont des zones hautement sécurisées qui ont vu le jour l'été dernier pour isoler du monde une centaine de narcotrafiquants de haute volée, parmi les plus dangereux. La promenade des détenus est limitée à 5 personnes, toujours les mêmes. Le téléphone est accessible 2 heures, 2 fois par semaine et jamais après 16 heures. Surtout lors des parloirs, les détenus sont séparés de leurs proches par une paroi vitrée de triple épaisseur pour éviter les entrées de produits illicites. Ils doivent crier pour se faire entendre à travers un hygiaphone. La grève de la fin de septembre n'aura servi à rien, puisqu'aucune concession n'a finalement été accordée aux détenus. 100 nouveaux narcos devraient même être incarcérés dans les mêmes conditions à partir de la mi-octobre à la prison de Condé-sur-Sarthe. Pourtant, l'isolement de longue durée a des effets dévastateurs sur les détenus. C'est en tout cas ce que dit la très sérieuse Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui parle même d'une torture blanche, capable de provoquer une altération des sens, la perte des repères spatio-temporels, une décompensation psychologique. Aujourd'hui, vous allez entendre deux histoires d'anciens détenus placés à l'isolement strict. Comment ils l'ont vécu et surtout, comment ils en sont sortis. C'est une émission d'Antoine Guérimand.
Je m'appelle Christine, j'ai 55 ans maintenant. J'ai grandi d'abord dans l'Oise, ensuite dans le Briançonnais, où j'ai passé le bac. Pas le choix, parents prof, tu passes le bac. Voilà, donc j'ai fait un DUT, carrière sociale. J'ai travaillé quelques années à la MJC à Briançon. Ensuite, la NPE me propose une formation pour être berger, un CAP en un an. Et pendant 10 ans, j'ai été bergère. Il y a eu un été en Savoie où je rencontre un gars qui arrive en short alors qu'il pleuvait comme tout. Et qui me dit salut, t'as besoin d'un coup de main pour soigner ? Je dis, mais c'est quoi ce touriste qui me propose un coup de main ? Je lui dis vas-y, je vais attraper cette boiteuse, fais-moi 5 cc de pénicilline. Et il se trompe pas, il remplit la bonne seringue avec le bon produit à la bonne dose. C'est pas un touriste en fait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai connu mon compagnon. Et on a vécu ensemble l'été. Et à l'automne, je lui dis, il faut que tu descendes préparer pour les mises bas des agneaux. Moi, je vais rester en alpage, garder le troupeau. Et il y va, il descend avec un ami, il remonte. Et 6 heures derrière lui, il y a les gendarmes. Ils arrivent, ils l'arrêtent. Et j'apprends qu'il y a eu un fait très grave, un viol, dont il est accusé, et il sortait de 15 ans de tôle pour la même accusation. Il part en détention provisoire, et le lendemain du procès en assises, je vais le voir au parloir. Il y a un muret entre lui et moi, donc j'enjambe le muret pour me mettre sur ses genoux. Un surveillant arrive, me dit que c'est pas bien, que je dois passer de l'autre côté. Je l'accepte parce que, dans mon idée, je vais avoir 2 heures de parloir. Je vais avoir un double parloir parce que je viens de loin et parce que... voilà. Et en fait, au bout d'une heure, il me demande de sortir avec toutes les familles je comprends pas bien pourquoi, je l'accepte et je pense que je vais revenir. Sauf qu'ils n'avaient pas réservé le deuxième parloir, il y avait des familles devant qui attendaient et donc je me fais voler ce deuxième parloir. Donc j'essaye de forcer le passage entre les surveillants. Évidemment, j'y arrive pas. Je me retrouve plaqué au sol, les menottes, les flics qui arrivent, et ils m'embarquent en garde à vue. La première garde à vue, elle m'a fait peur, bien sûr. Mais après, j'ai vu qu'on pouvait y survivre, une garde à vue. Donc, suite à ça, je suis repéré par l'administration pénitentiaire comme quelqu'un à problème. Son gars, il est super calme, il est docile, et elle nous met une pagaille pas possible. Du coup, à chaque parloir, il y a de la pression. Les parloirs s'enchaînaient, ça allait de pire en pire, j'étais de plus en plus tendue, eux aussi. Il y a plein de jugements, je commence à me faire un casier assez conséquent. J'ai du sursis, un deuxième sursis, une amende, du sursis mis à l'épreuve, du ferme, mais qui n'est pas encore mis à exécution. Et puis ça continue pendant 6 ou 7 ans. À chaque fois, je suis condamnée pour outrage, rébellion, violence, le triptyque parfait qui permet de condamner toutes les sautes d'humeur ou toutes les revendications. Et jusqu'au moment où, à force de plus savoir quoi faire, ils font le truc le plus bête du monde, ils m'envoient en prison. Et donc là, je me retrouve en prison, à la Talaudière, à Saint-Étienne. Et pour que j'ai un statut autre que prévenu, ils font tomber le sursis que j'avais en stock. Donc j'en ai pour 11 mois, plus la peine à venir. Et comme c'est quand même compliqué pour eux de me gérer, ils m'envoient à Corba pour pouvoir me mettre au mitard. Et donc c'est une cellule vide. On n'a pas nos vêtements, on n'a pas la télé, on n'a rien. Il y a zéro interaction sociale avec d'autres détenus. Et donc, clairement, la solitude, ça mange le cerveau. C'est dangereux. Ça rend malade. Ça rend violent. J'essayais de ne pas dormir, parce que il n'y a que ça à foutre, en fait, au mitard, de dormir. Mais ça ne suffit pas à faire passer le temps. Donc, il faut faire marcher le cerveau. Et effectivement, tu le fais marcher sur ce que tu as autour de toi. Donc, tu fais le marcher sur la colère. Donc, moi, je me remémorais plein de chansons révolutionnaires. Je suis arrivé à retrouver tous les couplets de l'International. Faut vraiment s'emmerder quand même pour retrouver tous les couplets de l'International. Parce que je les cherchais au fond de mon cerveau. Et puis, j'écrivais beaucoup parce que j'avais beaucoup de courriers. Et ça, c'était vraiment très, très important, le courrier. Et puis oui, je m'emmerdais, oui, clairement, je m'emmerdais. Et puis j'attendais, j'étais là devant la porte, dans une demi-heure, ils vont amener la gamelle. J'essayais de me mettre une activité par jour. Aujourd'hui, je vais téléphoner à l'avocat. Aujourd'hui, c'est le jour de la douche. Il y avait 2 fois par semaine la visite du médecin. 2 fois par semaine l'accès à la salle de sport. 1 fois par semaine la visite de l'aumônier. Alors moi, je suis pas du tout religieuse, hein, mais je les demandais tous, les aumôniers. Alors là, aumôniers chrétiens, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, musulmans, je prends tout, ça me fait des visites, je prends tout. J'avais le calendrier très précis dans ma tête, parce que si t'as pas le calendrier, les jours ils se ressemblent tellement tous que tu perds le fil. Et puis, je suis rentrée dans un mode de fonctionnement revendicatif. Il fait froid, c'est l'hiver, le mitard est mal chauffé, il fait 13 degrés. Donc, je me bagarre pour avoir du chauffage. Je refuse de rentrer de promenade pour retourner dans la cellule qui est pas chauffée. Ils me viennent à plusieurs, ils me plaquent au sol, ils me tordent les épaules, je me débats dans les couloirs, ils disent qu'ils sont blessés. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ça ne peut que monter, parce que si j'arrête de monter... je tombe. J'ai pas d'autre choix que d'être en revendication. C'est juste que j'ai besoin de rester vivante. Et ce truc-là, ils le comprennent pas. Pour eux, plus ils vont me taper dessus, à un moment, je vais fatiguer et je vais me soumettre. Mais non, c'est pas possible. Si je me soumets, je meurs. Donc, au bout d'un moment, ils fatiguent et ils m'envoient à Bapaume. Et ça repart en d'autres boudins, systématiquement, ils font les gros mâles costauds, ils font... Dès que l'autre arrivait, on savait que c'était pour la baston. Ils étaient tellement méprisants, tellement... De toute façon, j'étais au mitard, j'étais tout au bout de la tôle. Et le but, c'était de m'oublier, c'était les oubliettes. Donc, il fallait que je fasse quelque chose, que ça sorte du mitard. Et donc, les chiottes inondées, c'est un truc très bien, parce que tu mets ton propre pull dans les toilettes, et tu déclenches, ça déborde. Et au bout d'un moment, ça noie aussi les coursives, et les surveillants, ils commencent à le voir. Et donc, bien sûr, ils arrivent... plaque au sol dans la flotte crasseuse, ils te menottent, ils te remettent dans cette cellule toute crasseuse. Et mais ça leur a pris 2 heures de temps, cette histoire-là. Et pendant ces 2 heures, tu sais que tu les as fait travailler, toi, là où ils voulaient te mettre dans les oubliettes. Alors bien sûr, t'as morflé, ils t'ont laissé avec les menottes, t'es trempé, ils vont te jeter la bouffe dans la flotte, tu sais tout ça. Mais t'as existé, et ça, c'était indispensable. C'était dur, c'était une tension continuelle. Et je savais que s'il n'y avait plus cette tension-là, je m'effondrais. Je me mettais en danger pour rester vivante. Quand on arrive au bout de 3 ou 4 mois dans la même prison, le niveau de violence a tellement monté qu'ils m'envoient dans une autre prison. Et là, j'arrive dans une autre prison... Et on me dit, bon, bah, extraction, tu vas au procès pour les faits qui sont passés dans la prison d'avant. À chaque procès, donc, le juge déclare une sanction. Vous avez causé du tort à ces surveillants. Donc, je vous mets 2 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an de plus de prison. Et donc, les peines se rallongent. En fait, la prison, elle fabrique des peines nosocomiales. À force de traîner dans les couloirs de la prison, on prend des peines à cause de la prison. Et donc, évidemment, ça... En décembre 2016, après avoir fait 15 prisons, après avoir fait 7 ou 8 gardes à vue, 752 jours de mitard, là je suis appelée au greffe et ils me disent le juge demande votre libération conditionnelle. C'est bon, t'es libéré. Et je me mets à pleurer. Pourquoi vous me l'avez pas dit à 3 ans? Il suffisait que le juge dise stop et ça s'arrêtait. Et moi, j'ai revécu toutes les violences subies et je dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Qu'est-ce qu'ils y ont gagné?
Je m'appelle Flo, j'ai 41 ans, je vis dans le sud de la France, je suis militant anarchiste. Et donc, ouais, à partir des années 2012, je prends en main un peu ma vision politique pour la mettre en acte. Et en 2016, je vais à Calais pour aider comme je peux sur la jungle les personnes migrantes qui veulent rejoindre l'Angleterre. Et puis, je quitte la jungle de Calais... Quelques mois après la destruction de la zone sud de la jungle, je repars. Et là, c'est là que je prends la décision qui me trottait depuis quelque temps de rejoindre donc le Rojava, la partie syrienne du Kurdistan. Alors j'y vais pour aider la révolution. À l'époque, au Rojava, le principal ennemi, c'est Daesh. Au moment où je rejoins mon bataillon, la grosse bataille qu'il y a, c'est Raqqa. Donc, je reste 10 mois. Donc c'est des combats urbains très tendus. Il faut accepter le fait que tu peux mourir toutes les secondes, quoi. Et que tu es en accord avec ce que tu fais, et qu'importe ce qui va arriver. Donc au bout d'un certain temps, septembre-octobre, Raqqa est libéré. Donc je rentre chez moi en France. Donc je récupère mon camion d'habitation, donc pas de problème. Et en fait, le 8 décembre 2020, je me fais réveiller par des gens qui rentrent dans mon camion d'un coup avec des fusils d'assaut pointés sur moi. Et en fait, c'est le GAO qui est à peu près le GIGN de la DGSI, et donc qui m'arrête en m'accusant de terroriste. Et après, directement, le Levallois-Perret, 4e sous-sol de la DGSI. Donc le 8 décembre, en fait, on est 9 arrêtés. Donc je suis le seul à avoir été au Rojava. Alors là, on fait 96 heures de garde à vue antiterroriste. Et on sera 5 à aller en prison. Et donc, moi, ils m'envoient à Boualarcy, dans les Yvelines. Je rentre dans la cellule d'isolement. Elle fait à peu près 12,50 m au carré. Donc, je sais que je suis à l'isolement, mais je vois pas les conséquences, en fait. J'ai juste l'impression que je vais être seul en cellule. Et très vite, je comprends, par exemple, que... En fait, c'est aussi seul tout le temps. Les seules interactions que je vais avoir, c'est les surveillants. La promenade, la douche, le sport, tout ça, c'est dans la même aile. On ne sort jamais de cette aile-là. En fait, si on doit sortir de l'aile d'isolement, ça veut dire qu'on va dans la détention ordinaire. Et comme on a le droit de voir personne et que personne n'a le droit de nous voir, ils doivent tout bloquer. Et c'est compliqué, ça leur demande du travail. Donc, ils font venir 2 fois par semaine les gens de Luxor. En fait, on a des médecins qui viennent régulièrement. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, quoi qu'on fasse. Et là, c'est top chrono, 30 secondes. Bonjour, ça va? Si par habitude, tu dis oui, ça va? Ok, au revoir, glac, ils ferment la porte. Donc, il faut être prêt à dire ça va? Non. Sinon, la porte est déjà fermée. Et les 3/4 du temps, à part te balancer du Doliprane, il n'y a pas grand-chose. Alors moi, je me réveillais 1 heure avant le réveil des surveillants parce que le réveil avec les verrous qui claquent, en fait, c'est pas agréable. Les surveillants arrivent, me donnent mon petit-déj. Après, t'es enfermé dans ta cellule. À un moment donné, ils viennent pour t'emmener au sport. Donc là, on sort de la cellule. Il y a un gradé de surveillants. Palpation de sécurité. On passe le portail de sécurité, donc comme à l'aéroport, quoi. On leur donne nos affaires. Ils fouillent les affaires. Et on va pour une demi-heure de sport. La salle de sport, on va dire que ça fait aller 20 mètres carrés. Au bout d'une demi-heure, on sort, on fouille nos affaires, on passe le portail, on nous met dans la douche. Tu sors, palpation de sécurité, ils fouillent tes affaires, portail de sécurité, tu rentres dans ta cellule. Vers midi, ils t'amènent la nourriture. Dans l'après-midi, à l'heure convenue, ils viennent te voir pour la promenade. Donc tu sors, palpation de sécurité, ils fouillent tes affaires et portail de sécurité. Tu rentres dans la promenade, et en fait, tes promenades, tu les fais au 4e étage, dans 25 mètres carrés, avec des murs hauts de 4 mètres. En hiver, tu vois pas le soleil, et le plafond est bardé de barbelés et de grilles. Ensuite, tu ressors de la promenade, palpation de sécurité, ils prennent tes affaires, ils les fouillent, tu passes le portail de sécurité, ils te retournent dans ta cellule. Et voilà. Donc, tu es dans ta cellule à peu près 22h30 par jour. Et toutes les 2 heures, ils regardent par l'œilleton pour vérifier que tu n'es pas pendu ou que tu t'es pas évadé ou pour t'empêcher de dormir parce que c'est toutes les 2 heures, même la nuit. Donc la nuit, ils allument la lumière, quoi. J'ai remarqué que même avec la soi-disant promenade, jamais tu es à plus de 2 mètres d'un mur. T'as toujours un mur qui est à 2 mètres maximum de toi. N'importe où, même dans les espaces les plus vastes que tu peux avoir. En fait, on n'a plus de vision, en fait. On a des murs tout le temps autour de soi. Et il y a des moments, en fait, où t'as à la fois ton corps perd pied, entre guillemets, et ta tête aussi, et tu peux être pris des fois de vertige. Tu me rappelles les moments où le sol, en fait, il penchait. Il n'y a plus rien qui colle, quoi. Les murs sont tellement épais, en fait, ils sont physiques, mais ils sont après dans ta tête, toi. Bah, tu peux pas traverser les murs, mais ce qu'il y a à l'extérieur ne peut pas autant traverser les murs non plus. Par exemple, pendant les parloirs, en fait, c'est irréel, parce que c'est en dehors de ta réalité qui est juste tes murs, quoi. Et quand tu reviens dans ta cellule, ben, ça s'est quasiment pas passé, quoi. J'ai un ami qui s'est suicidé. Je l'ai su, c'est un fait. Mais c'est pas réel. C'est à l'extérieur. Par contre, t'as une fenêtre, mais la fenêtre, t'as des barreaux, des petits caillebotis qui sont mis à quelques centimètres, qui fait qu'il faut vraiment fermer un œil, viser, pas bouger pour voir un endroit où tu te déplaces pour essayer de voir ailleurs. Les seules choses que tu peux voir, en fait, c'est une zone de promenade. Tu vois des gens qui interagissent entre eux. quelle que soit leur interaction. Tu en vois qui font du sport entre eux, t'es là, waouh, oh, la liberté absolue. Alors qu'ils sont entourés de murs, hein, mais ils ont des murs, il y a, je sais pas, on va dire qu'ils ont un terrain de foot, de promenade. Ça me semble tellement énorme. Ils sont, il y en a qui tournent autour de la promenade en discutant. Ils passent des heures à discuter entre eux. Il y en a qui sont posés en train de fumer des clopes, à s'interagir. Il y en a d'autres qui s'engueulent. Ils sont vivants. Ils sont pas emmurés vivants. Et quand je les vois tellement libres. Mais moi, je suis là, waouh. Ça me semble être la liberté, en fait. La prison me semble la liberté. Bah, quand tu comprends ce que tu penses, tu fais, ok, ça bug là aussi. Donc il y a ça, et en fait, tu perds la parole, tu perds le contact des autres, tu perds le regard des autres, tu perds les échanges, tu te perds aussi, parce que si personne te voit, personne t'entend, est-ce que tu existes ? Comme t'as pas l'interaction, t'as pas les visages, t'existes plus, et le monde derrière, en fait, comme tu n'as plus l'interaction avec, il n'existe plus. Dans des circonstances comme ça, en fait, si tu t'occupes pas, tu pètes les plombs. Donc moi, je passais, on va dire, à peu près 5 heures par jour à étudier le kurde en autodidacte, 5 heures de lecture, je refaisais un tout petit peu de sport, des fois, dans la cellule, du tai chi, beaucoup de lettres. Ça fait déjà pas mal d'occupations, quoi. Et vraiment, j'ai essayé de me dire quel pouvoir j'ai sur la situation. Aucun. Donc le seul pouvoir que j'ai, c'est comment j'occupe mon temps. Au bout de 5 mois, j'ai eu 2 amis qui sont sortis de prison. Et 24 heures plus tard, en fait, on me parle de ça. Et en fait, je me rends compte que j'avais complètement oublié. Donc la seule bonne nouvelle, en plus de 5 mois d'enfermement, t'as réussi à l'oublier. Ben en fait, t'as plus de mémoire. À un moment donné, j'ai pu avoir des cours d'anglais à distance. Donc au début, ça va. Et à un moment donné, par exemple, un genre de contrôle, entre guillemets, qui, je sais, ne me prend 2 heures, ça commence à me prendre 2 jours, 3 jours. Au bout d'un moment, j'ai un truc, ça me prend 3 semaines. Parce que j'arrive pas à penser. Je sais que c'est facile. Je suis incapable de le faire. C'est comme si le cerveau, il se gélifie d'un coup, il se bloque, quoi, il gèle. Ta pensée s'arrête. Après un certain temps, je mets un mécanisme de survie bien plus que sur Raqqa, d'ailleurs. Je mets des mécanismes en place pour tenir le coup. Donc je mets en stand-by toutes les émotions. Ceux qui partagent cette mauvaise aventure, tous les amis qui ont été en prison, au fur et à mesure des interrogatoires du juge d'instruction, quand le juge d'instruction n'avait plus de questions, les avait remis en liberté, avec contrôle judiciaire, en attente de procès, tout ça. Au bout d'un certain temps, en fait, le juge d'instruction n'a plus de questions. Donc, j'attends qu'on me sorte. On me sort pas. Là, ça va pas. Il y a de l'émotion qui repointe. On fait des demandes de mise en liberté. Le juge des détentions à liberté nous reçoit, dit je vais demander une enquête de faisabilité, comme ça je donnerai mon verdict en fonction de ça. Donc les 3 enquêtes de faisabilité reviennent avec que des trucs positifs. Nickel. Donc on vient voir le juge des libertés et détention, et là il fait ok, donc tout est garanti, tout est bien. Non, on refuse. Ça fait à peu près 15 mois environ que je suis en isolement. Là, j'étais déjà à un stade avancé de détérioration. Donc là, j'ai repris beaucoup de force, parce que je suis rentré en grève de la faim. Donc j'ai repris contrôle de moi. J'ai repris un combat. Donc je me déclare en grève de la faim à 18h un jour. Le lendemain matin, visite de Luxa. Donc là, le mec, il me dit, vous êtes en grève de la faim ? Oui. Vous buvez ? Oui. Allez, ciao. Voilà. J'ai pas le problème de faim, en fait, je m'en fous de la faim. Je combats. Je sais plus exactement au bout de combien de temps on me transfère à l'hôpital prison de Fresnes, peut-être 3 semaines. Bon, j'arrive là-bas, donc c'est hôpital prison. Mais quand même, on a des médecins et ça change la vie. Parce qu'en fait, on a les médecins qui viennent régulièrement. Et juste, on a les visages. On a les paroles, on a les sourires, on a les échanges. On a les d'autres êtres humains et c'est assez waouh. Et là, ça a été assez vite parce que je continue à ne pas m'alimenter. En sachant que le juge d'instruction disait non, sa grève de la faim prouve sa dangerosité. Donc il n'entendait pas que dans l'état de torture dans lequel on me mettait, j'en pouvais plus. Et j'arrive au point critique où je peux crever vraiment d'une minute à l'autre. C'est arrivé dans les hautes sphères, ou au moins au juge d'instruction, qui là s'est dit « merde ». Et ça a été un peu branle-bas de combat de leur côté en disant « ok, peut-être qu'on va pas le laisser crever ». Et du coup, j'ai pu ressortir. J'ai été à l'hôpital Paul Brousse le 7 avril, où je suis resté une quinzaine de jours à me réalimenter pour après pouvoir revenir là où je suis actuellement, donc avec le bracelet électronique et tout et tout. Alors cet isolement, bah déjà, ça casse des amitiés. Ça casse des liens, ça casse des amours. Après, pendant plus de 16 mois, j'ai pas eu un contact physique, quoi. Bah, ça laisse des traces, quoi. Moi, d'être touché par une personne, genre juste quelqu'un, quand on est en train de discuter, qui met sa main sur ton bras, en fait, c'est à la fois agréable et à la fois tu te bloques parce que tu sais plus comment réagir. Parce qu'en fait, pendant 16 mois, les seuls contacts que t'as pu avoir... c'est des surveillants ou des surveillantes qui sont en train de te palper, quoi. Et ces contacts-là, pour moi, c'est pas un contact humain, c'est une machine qui te check, quoi. Quand tu passes 16 mois d'isolement, tu ne fais que penser. T'es que dans ta tête, et encore, quand t'arrives à penser. Du coup, tu ne sais plus interagir avec l'autre. Normalement, on filtre, on pense à plein de choses, et on sait ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Là, tu sais pas. Donc, tu oses plus dire des choses. Moi, tu sais pas commencer une conversation. Donc je vois les impacts sur mon quotidien, je les vois sur mes relations sociales, je vois le mal que ça m'a fait, je vois le mal que ça me fait encore, quoi. J'ai pu faire 10 mois sur des zones de guerre où j'en suis sorti serein, et je vois 16 mois d'isolement dans les geôles de la République française, et je vois vraiment comment ça m'a détruit, je vois ce que je suis plus capable de faire. En avril 2023, l'isolement était reconnu illégal. Donc pour 16 mois de torture blanche, on m'a filé 3000 euros. Ah, ça valait le coup. Et du coup, tout le mois d'octobre 2023, on est passé donc en jugement, première instance. Donc on a été condamné. Moi, j'ai 5 ans, dont 2 ans et demi avec sursis. Et on passera en appel, du coup, en mois de mai 2026. Sur les 7, on a tous été condamnés. On est 6 à avoir fait appel. Alors selon moi, s'ils m'ont mis à l'isolement, c'est pas parce que je présentais un danger. Ils l'ont bien vu. Alors selon moi, c'est assez simple. Mettre quelqu'un dans une condition insoutenable, invivable, pour l'obliger à faire quelque chose qu'on veut, ce qu'on appelle la torture. Donc ce qu'ils voulaient, c'est qu'à un moment donné, je valide la thèse policière. Je suis... un anarchiste chaotique, qui n'a pas de conscience et qui n'a pas d'humanité, le bourrin qui veut tout faire exploser, moi c'est vraiment leur vision un peu du truc. Et je vais au Rojava uniquement pour m'aguerrir, revenir et faire péter en France. Pour eux, ils ont le même scénario que des Daéchiens, quoi.
C'était un sujet d'Antoine Guirimand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Flo, à Christine, au journal L'Envolée et à l'Observatoire international des prisons. Sachez que Flo, la deuxième personne qui témoigne dans cette émission, est aussi l'auteur d'Anticiper le bruit sec des verrous, un livre publié aux éditions du Bout de la Ville et dans lequel il raconte son expérience de l'isolement. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et Luce Mourant, c'est notre stagiaire.